Merci Alain Le Gougec et bonjour à tous. Aujourd'hui, le martyr des chrétiens. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. Évangile de Jean. D'histoire. Je ne crois que les histoires, écrivait Pascal, dont les témoins se font égorger. Pascal, qui savait qu'en grec le mot martyr signifie témoin, parlait de ces milliers d'hommes et de femmes qui ont payé de leur sang leur foi en une religion nouvelle, celle des premiers chrétiens, dont le prosélytisme inquiétait tellement les Romains que pendant 3 siècles, ils les ont persécutés. Crucifiés comme Saint-Pierre, livrés aux fauves comme Sainte-Blandine à Lyon, ou brûlés vifs comme Saint-Laurent, ils ont été ainsi des milliers à mourir sur ordre de Néron, de Trajan, de Marc Aurèle, de Valérien ou de Dioclétien. Mais au lieu de faire disparaître le christianisme, ces empereurs romains ont fait exactement le contraire. « Le sang des chrétiens est une semence », avait écrit un jour l'écrivain romain Tertullien, impressionné par le courage de leurs martyrs.
La paix soit sur nos martyrs.
Pierre.
Paix aux victimes. Apaise leurs souffrances. Insuffle-leur la force, ô sauveur.
Emparez-vous de cet homme.
Bénis soyez-vous, mes enfants, qui allez mourir au nom de Jésus. Aujourd'hui même, vous allez le retrouver au paradis. Là où l'empereur aujourd'hui règne, demain le Christ à tout jamais règnera.
Et c'était l'extrait d'un célèbre péplum, Covadis, que connaît sûrement mon invité d'aujourd'hui, Max Gallo, bonjour.
Bonjour.
Alors le 5e et dernier volume de votre série romanesque sur les Romains sortira dans quelques jours en librairie. C'est la fin pour vous et pour ceux qui vous lisent, hélas, d'une histoire. Quand je dis hélas, c'est parce que c'est la fin d'une histoire des Romains que vous avez commencé avec Spartacus et qui se termine avec Constantin, celui qui a mis fin aux persécutions des chrétiens. Donc 300 ans d'une histoire qui est aussi celle justement des chrétiens et de leurs martyrs. Mais les grandes persécutions n'ont pas duré, on l'oublie souvent, n'ont pas duré constamment pendant 3 siècles. Hein. Il y a eu des périodes de rémission, elles ont été en fait épisodiques, Max Gallo.
Oui, elles ont été épisodiques. Au fond, la première, l'image du Christ, à la fois condamné par un tribunal juif et aussi par le procurateur Ponce Pilate, symbolise toute la tragédie qui s'annonce. Mais, comme vous le dites très justement, il y a des séquences. Jusqu'à Néron, c'est-à-dire jusqu'en 64 après Jésus-Christ, il y a tolérance. Les chrétiens ne sont qu'une secte juive. Il y a des problèmes de concurrence, je dirais, entre ces deux religions. Puis, c'est évidemment Trajan. En 112 avant Jésus-Christ, nous avons une lettre qui est tout à fait fort intéressante, un document majeur de Pline le Jeune, qui est procurateur romain en Bithynie, écrit à l'empereur en disant « Qu'est-ce que je dois faire avec ces hommes et ces femmes qui se déclarent chrétiens, qui ne veulent pas honorer l'empereur comme Dieu? Est-ce que je dois les persécuter? Est-ce que je dois les condamner ou pas ?» Et c'est très intéressant, la réponse de Trajan est finalement relativement modérée, puisqu'il dit, écoutez, en tout cas, ne cédez pas aux dénonciations, ne suivez pas ceux qui dénoncent anonymement les chrétiens, il faut les interroger, évidemment s'ils s'obstinent, il faut les condamner, mais sinon, il faut les tolérer. Ça c'est le deuxième moment, il y aura Marc Aurèle, et puis il y aura surtout au 3e siècle, avec des empereurs qui ont régné brièvement, comme Dèce, qui je crois a régné de 249 à 251, c'est-à-dire très peu de temps, là il y a une volonté d'extermination, ce qui n'était pas le cas précédemment, là on veut exterminer.
Non, Non, c'est pas le cas parce qu'effectivement, ça on l'oublie aussi souvent, la religion romaine est relativement tolérante, de même d'ailleurs que l'État romain qui n'a jamais empêché, même s'il les a persécutés eux-mêmes, hein, mais qui n'a jamais empêché les Juifs de pratiquer leur religion. Et même chose pendant longtemps avec les chrétiens, d'autant plus, Max Gallo, il faut le rappeler aussi, que jamais le christianisme, les chrétiens, jamais le Christ lui-même n'a contesté l'autorité du pouvoir romain.
Oui, le discours central est au fond tenu par Paul de Tarse, citoyen romain lui-même, et qui déclare qu'il ne faut pas s'en prendre aux puissants. Qu'au fond, les puissants sont une image de Dieu sur la terre, presque, et qu'en tout cas, il ne faut pas s'en prendre à eux. Et donc, les Romains peuvent développer leur tolérance religieuse et leur intransigeance politique. Tolérance religieuse, dans la mesure où, en effet, ils assimilent les dieux, ils respectent les sanctuaires. On a même le cas d'un empereur au IIIe siècle, Alexandre Sévère, dont on dit qu'il avait dans son mausolée personnel à la fois Orphée, Apollon, Mars, Abraham, le Christ, et qu'il vénérait ces trois dieux. Au fond, plus on a de dieux, c'est une religion polythéiste, et mieux on se porte, mieux on est protégé. Ça, c'est la tolérance religieuse, mais l'intransigeance politique, encore faut-il que ces croyants de religions diverses acceptent la prépondérance et la divinité de l'empereur, et nous savons que les chrétiens ont toujours refusé de sacrifier à cette idole païenne l'empereur. De là, la persécution politique et le rôle parfois de bouc émissaire qu'on leur a fait tenir.
En tout cas, au début, pendant un demi-siècle, c'est pratiquement sans aucune espèce d'empêchement de la part du pouvoir impérial, et bien que le christianisme va se développer dans l'Empire.
Les graines ont germé que Pierre a semées. Déjà les tiges verdissent, la nouvelle moisson sera riche. J'ai vu partout des inconnus approcher et dessiner le signe du poisson devant mes yeux. Nous avons parlé de la tâche immense qui nous attend. Mais je suppose qu'il est bon de se montrer prudent, même si l'on prêche l'évangile d'amour et de foi. Regarde par exemple ces bouillants soldats. Ils incarnent Rome. Si nous pouvions les catéchiser, nous gagnerions le monde à notre cause.
Contrairement au judaïsme, Max Gallo, d'où il est issu d'ailleurs, le christianisme, lui, fait du prosélytisme. Le judaïsme,
il fait du prosélytisme parce que c'est au départ une secte issue du judaïsme et qu'il doit, face à cette religion puissante installée dont il est issu, il doit conquérir de nouveaux adeptes. Il veut se développer, et pour se développer, quelqu'un comme Paul de Tarse, citoyen romain, je le répète, parce que le citoyen romain chrétien a droit à un sort particulier, à une persécution particulière, d'être jugé à Rome. En tout cas, Paul précise très bien que il n'est pas nécessaire, par exemple, d'être circoncis, d'accepter la circoncision, qu'on peut aussi être chrétien, même quand on n'est pas citoyen romain, qu'on peut être barbare et citoyen romain. Donc il y a là la diffusion du christianisme, et c'est ce côté nouveau qui choque les Romains, même quand ils ne persécutent pas les chrétiens. C'est cette religion qui est à la marge, qui recrute parmi les esclaves, qui recrute parmi les femmes, qui recrute parmi les enfants. Alors beaucoup de fantasmagories à propos de ce recrutement, avec des accusations de crimes d'infanticide dont on accable les chrétiens, car cela apparaît mystérieux, et en même temps cela apparaît comme une religion qui n'a pas la dignité des autres religions, qui se complaît dans une sorte d'attitude de compassionnelle, avec une absence de violence. Or, n'oublions pas que la violence et la cruauté sont deux éléments majeurs de la civilisation romaine.
Et puis une religion qui est issue du judaïsme, mais dont le premier adversaire va être le judaïsme, quand Paul sépare, au fond, le christianisme, qui ne prend ce nom qu'assez tard, hein, c'est à Antioche que les chrétiens s'appellent ainsi, des chrétiens, eh bien, à ce moment là, il y a un conflit avec le judaïsme. Le premier, je crois que le premier martyr,
absolument,
qui était Étienne,
c'est le diacre de Jérusalem, voilà, c'est-à-dire le chef de la communauté chrétienne de Jérusalem, qui sera lapidé par la communauté juive.
Par les juifs, hein,
mais
c'est
il
pas
faut comprendre,
Romains,
ouais.
Paul était là d'ailleurs.
Ça n'a rien d'étonnant. Nous sommes, et je réemploie ce mot parce que c'est celui qui nous aide le mieux à comprendre, nous sommes avec une situation de concurrence avec une religion qui se développe et qui part du noyau, et le noyau proteste, le noyau se défend, le noyau condamne, c'est même si le mot est neuf et d'aujourd'hui, condamne ces hérétiques.
Et qui part dans tout l'Empire romain sans y être persécuté jusqu'en 64, lorsqu'au lendemain de l'incendie de Rome, eh bien Néron, que l'on soupçonne de l'avoir allumé, détourne la colère des Romains en accusant les chrétiens d'en être responsables.
Néron, mon bien-aimé, offre au peuple ce qu'il veut. Offre-lui un bain de sang, une vengeance. Non pas une victime, mais des centaines, des milliers. Des gens qui vénèrent un dieu plus grand que toi à les en croire.
Qui sont ces gens?
Ils se donnent le nom de chrétiens.
Ce sont les ennemis de Rome et de l'État.
Le peuple crie vengeance, Néron. Assouvis sa colère. Le peuple te soupçonne. Dirige ses soupçons contre ces monstres plutôt que contre ta personne.
Le peuple aura d'ici peu sa vengeance. Dans les présentes, je proclame que l'incendie qui a ravagé notre métropole bien-aimée est l'œuvre d'une secte de fanatiques qui s'intitule chrétiens. J'entends exterminer ces criminels d'une manière proportionnée à l'énormité de leurs crimes.
Et c'est le début de la première grande persécution des chrétiens ordonnée par Néron à Rome en 64, la plus connue, pas forcément la plus sanglante, hein, mais en tout cas, là on le voit bien, les chrétiens, si en 64 Néron les livre aux bêtes, ou plutôt les a brûlés vifs, hein, je crois.
Absolument, il les a crucifiés, leurs corps enduits de poids ont servi de torches, de luminaires, oserais-je dire, pour éclairer les fêtes données par Néron au peuple. Car on ne peut comprendre la violence de cette persécution que si on accepte de penser, même si c'est difficile, que le peuple romain approuve cette persécution, il la tolère, parce que les chrétiens apparaissent vraiment comme l'autre avec un grand A, comme ces gens qui sont en marge, qui ne sacrifient pas aux dieux, qui ne vont pas dans les amphithéâtres pour assister aux combats de gladiateurs. Donc il y a vraiment le sentiment d'une communauté qui ne fait pas de bruit, mais qui en même temps étrangère profondément. Et donc l'accusation portée par Néron au moment de l'incendie de Rome est une accusation qui est acceptée. Et dans ce climat où la mort de l'autre, je pense aux jeux sanglants, est tout à fait d'une grande banalité, eh bien les chrétiens sont normalement acceptés comme étant des boucs émissaires responsables de l'incendie.
Alors il y aura donc cette persécution, puis il y en aura d'autres plus tard. Ce qui me frappe en lisant vos livres, Max Gallo, c'est que on aurait pu s'attendre à ce que des empereurs réputés comme étant des empereurs sanguinaires, brutaux, je pense à Caligula, je pense encore à Elagabal, n'ont pas été les pires en ce qui concerne les chrétiens, et que ce sont des empereurs dits humanistes, philosophes, comme par exemple Trajan ou Marc Aurèle, qui eux ont persécuté, ont été presque les pires vis-à-vis des chrétiens. C'est assez étrange, Marc Aurèle, j'étais surpris de voir qu'il était l'auteur de...
Moi aussi, c'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre sur Marc Aurèle, Le martyr des chrétiens, parce qu'il y a effectivement une contradiction, pour nous en tout cas, entre le raffinement, la dialectique des pensées de Marc Aurèle, grande philosophie stoïcienne, réfléchissant sur la vie, et en même temps le côté implacable de la persécution, et évidemment l'épisode qui nous concerne en tant que Français, en tant que descendant de la Gaule romaine, c'est évidemment la persécution à Lyon en 177 après Jésus-Christ, où nous avons toute la communauté chrétienne de Lyon et de Vienne, la ville d'à côté, qui est vouée au martyr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une communauté qui vient d'Orient, qui a remonté le Rhône avec le commerce qui existe. Elle vient d'Asie, d'Anatolie, de Bithynie, et elle est persécutée, et nous avons ces figures de Potin, qui était le chef de cette communauté, Sainte Blandine, bien évidemment, d'autres encore. Et cela marque que, c'est ce que j'évoquais, ce qui dicte la persécution, c'est évidemment l'étrangeté politique, le risque politique que semblent représenter ces chrétiens pour l'empereur romain, pour Marc Aurèle. Et il s'est engagé personnellement, on a le témoignage, puisque le légat de Rome à Lyon, avant d'exécuter ou d'envoyer dans l'amphithéâtre qui se trouvait sur la colline de la Fourvière des chrétiens, parmi lesquels il y avait des citoyens romains, a demandé à Marc Aurèle ce qu'il devait faire, si on devait les persécuter ou pas, et la persécution a eu lieu, là encore, avec l'assentiment des populations gauloises qui se rassemblaient précisément à Lyon le 1er août. La persécution a eu lieu à ce moment-là, car d'une certaine manière, dans cette population pénétrée de croyances païennes qui pensent que les dieux protègent à la fois leur vie singulière et protègent l'Empire, tous ceux qui ne croient pas, qui ne vénèrent pas, qui ne sacrifient pas, sont des gens qui sont des adversaires, qui remettent en cause le calme de la vie publique. Donc on doit les persécuter.
Ce sont des gens ivres de religion. Ils ont brisé les statues de nos dieux et même celles de l'Empereur. Qu'on les punisse. Bien sûr. Chaque fois qu'on peut les trouver.
Arrête les meneurs.
Ah, ça n'est pas si facile. Nous n'avons jamais la moindre preuve contre eux. Ce pays est travaillé par je ne sais quelles forces étranges.
Il n'y a de divinité qu'en un seul homme. L'empereur est très mécontent. Le nouveau procurateur et moi devons rétablir l'ordre et j'ai l'intention d'obéir à l'empereur.
Oui, mais comment, Messala? On peut s'attaquer à un homme, on peut l'arrêter et le faire jeter au fond d'un cachot. Mais comment peut-on lutter contre une idée? Est-ce qu'on poignarde une idée? En particulier une idée nouvelle?
En fait, pendant toute la durée de l'Empire, Max Gallo, vous l'avez d'ailleurs dit, au fond, les empereurs sont partagés entre la tolérance, on l'a dit...
Accepter.
Voilà,
accepter. On ne regarde pas. On laisse croupir dans leur coin ces gens étranges. Et là, une phrase que je peux vous lire d'un écrivain de l'époque de Marc Aurèle. Nous voyons d'abord dans ce texte qu'il confond à la fois les juifs et les chrétiens, mais vous verrez sa violence quand il dit ceci. « Juifs et chrétiens me font l'effet d'une troupe de chauves-souris ou de fourmis sortant de leurs trous ou de grenouilles établies près d'un marais ou de vers tenant séance dans les coins d'un bourbier. » Vous saisissez la violence et le mépris qu'on a à l'égard de cette secte composée, je le répète, d'individus qui sont issus, le plus souvent, sauf quelques citoyens romains, qui sont issus des couches les plus humbles, les plus méprisées de la société. Il y a aussi cela dans la persécution. Il y a la défense d'un ordre social, la défense d'une vision du monde, la défense aussi de la santé de l'Empire, de la protection des dieux classiques sur l'Empire, c'est tout cela qui explique la persécution contre les chrétiens.
Alors une persécution, encore une fois, qui a eu des hauts et des bas, et alors qui vraiment atteint son apogée, avec des empereurs dont on a un peu oublié le nom, mais ça a été les pires, hein. Vous les avez évoqués au tout début, c'est vrai qu'on pense toujours à Néron quand on pense aux persécutions.
Non, on a raison de penser à Néron.
Néron, mais les
on pense
pires,
pas à Marc Aurèle,
les pires,
mais
c'est quand même deux siècles après lui, c'est, vous l'avez cité, Dèce, par exemple, c'est avec lui, parce que jusque-là, les chrétiens n'étaient pas obligés de sacrifier aux dieux. C'est avec Dèce, je crois, que ça devient obligatoire.
Non, mais là, nous sommes avec Dèce, nous sommes vraiment dans une persécution qui vise à l'extermination. Jusque-là, on persécuter, j'allais dire ponctuellement, en fonction des circonstances. Avec Dèce, un empereur bref, donc 249-251, on a la volonté d'exterminer. Pourquoi? Parce que l'Empire est devenu fragile. L'Empire est pénétré par les barbares. L'Empire se sent menacé. Et d'une certaine manière, on craint, et à raison d'ailleurs, on craint que les chrétiens ne soient au fond des chevaux de Troie, je dirais, de cette nouvelle vague de population qui pénètre l'Empire. La lutte contre les chrétiens, c'est aussi la lutte contre les barbares, d'une certaine manière, qui refusent de s'assimiler à Rome en acceptant la religion. Et donc la persécution s'étend dans tout l'Empire, et elle s'étend non plus, comme cela a été sous Marc Aurèle, dans les vieux territoires de l'Empire romain, j'entends l'Espagne, l'Afrique du Nord, ou bien la Gaule ou l'Italie, elle gagne et elle est d'autant plus violente dans les provinces orientales. Par exemple, en Syrie, par exemple, dans toute la zone des Balkans, en Anatolie, c'est là où la persécution est la plus violente parce que là, nous sommes au contact des barbares et menacés par les barbares et donc, on veut la sécurité, on veut l'homogénéité d'une certaine manière.
Il y a peut-être aussi autre chose, Max Gallo, c'est que en principe, je crois, dites-moi le contraire si c'est faux, mais les chrétiens ne pouvaient pas être des soldats. À l'époque, c'est une religion pacifiste. Or, au moment précisément où, à cause de ces invasions, l'Empire a besoin de soldats, elle ne peut pas compter sur des chrétiens qui sont en plus de plus en plus nombreux.
Bien sûr, ils ne sont pas soldats, mais avec le développement, avec le glissement du temps, l'intégration des barbares difficiles, comme je viens de le dire, dans la société romaine, on voit des légions romaines qui sont des légions chrétiennes. Par exemple, à la fin, au IVe siècle, sous Constantin, nous avons des légions romaines. Par exemple, pour sauter un siècle, Saint-Martin, le fameux Saint-Martin, était un soldat romain qui a refusé de se battre, mais il était d'abord un officier romain. Et cela aussi inquiète, parce que certains de ces légionnaires romains, quand ils se convertissent, refusent de se battre. Et donc, il y a là une indiscipline, un aspect politique qui est tout à fait gênant.
Alors, le dernier empereur, au fond, le plus violent de tous vis-à-vis des chrétiens, ça a été Dioclétien. Alors lui, c'est carrément les ordres qu'il donne, c'est, je le cite, de raser toutes les églises, d'imposer aux chrétiens l'apostasie, c'est-à-dire qu'ils renient leur religion sous peine de mort.
Et il y a eu de nombreux des gens qu'on appelle des lapsis, c'est-à-dire des gens qui se sont en effet parfois dans l'arène, parfois torturés, qui ont accepté de renier leur religion. Ils ont été très nombreux et on saisit bien, si vous voulez, c'est très intéressant parce que Dioclétien, nous sommes à quelques décennies de la conversion de l'Empire romain en Empire chrétien. C'est comme si c'était la dernière tentative pour l'extermination. Et cette tentative se déploie, elle ensanglante toutes les provinces d'Orient, d'Asie, des Balkans, la Mésie, la Bithynie, la Syrie, la Palestine. Elle est donc extrêmement violente, extrêmement vigoureuse, et en même temps, elle ne réussit pas. Les chrétiens sont toujours là parce qu'il y a un véritable désir de martyr.
Oui, et puis aussi parce que, tout simplement, eh bien, si on tente de les exterminer, c'est qu'ils menacent tous les fondements, vous l'avez dit, de la civilisation romaine.
Il n'y a plus de maître, ni d'esclaves. Nous sommes tous égaux, disent les chrétiens. Pire, ils disent que les maîtres sont des scélérats ou des fils de scélérats.
T'as raison.
Pire encore, ils disent que les derniers seront les premiers, les serviteurs au-dessus des maîtres.
Combien t'ont fait de persécutions jusqu'ici? 7. Combien étaient les chrétiens au moment de la première? 200 000. Combien sont-ils aujourd'hui? 20 fois plus. Il n'est pas difficile de conclure.
Mais cette fois, il faut arracher jusqu'aux racines. Extirper tout. Tous.
Alors tous, jusqu'au dernier. Parce que s'il en reste un seul, garabout.
Lorsque j'en aurai fini avec ces chrétiens, l'histoire ne pourra pas assurer qu'ils aient jamais existé.
Ce qui a frappé Masgallo aussi dans ses martyrs, enfin dans la façon dont il était martyrisé, c'est la violence avec laquelle ça s'est passé. Vous avez cité Blandine, mais il y a eu aussi Pierre, pendant ces trois siècles au début, Pierre qui a été crucifié.
La tête en bas d'ailleurs.
Oui, la tête en bas. Il y en a d'autres qui étaient brûlés vifs, je crois. Sainte Agathe a eu les seins coupés par des tenailles. Et tout ça se faisait en public, devant un public ravi, devant une foule ravie. C'était un spectacle populaire, ce qui peut évidemment de surprendre
très très
aujourd'hui.
Populaire, où on demandait de la torture de plus en plus violente, et les tortures qui ont été infligées à Blandine par exemple et à d'autres chrétiens de la région de Lyon, de la Gaule donc, ont été tout à fait extraordinaires. Je les décris parce que nous avons des documents là-dessus, mais la même chose à ce qui s'est passé dans tous les amphithéâtres de tout l'Empire romain. Mais ça n'est pas surprenant. Là, nous, je ne dirais pas, les chrétiens ne sont pas spéciales, ils sont visés. Mais l'horreur, la révolte de Spartacus, vous savez bien, 6000 crucifiés entre Capoue et Rome. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des esclaves
révoltés. Blasé, quoi, ce que
non, c'est,
enfin,
c'est
je que, parle des spectateurs.
On attend cela, on attend vraiment cette cruauté. Et d'ailleurs, une des causes de la persécution, c'est que les chrétiens ne participent pas à cette cruauté. Ils ne vont pas à ce spectacle. Ils le contestent. Et un autre élément qu'il ne faut pas oublier de leur force, c'est évidemment qu'ils promettent à l'esclave, qui n'est qu'un animal vu du point de vue du citoyen romain, ils lui promettent la dignité de l'homme et la résurrection. Car c'est ça la clé du succès.
Est-ce que c'est ça qui explique, Masgallo, justement, la sérénité dont ils font preuve devant le martyr? Vous parliez à l'instant d'un désir de martyr.
Mais oui, écoutez, nous avons un texte très connu, mais je vais vous en lire un passage de Ignace, qui est l'évêque d'Antioche, et qui dit ceci. Laissez-moi, alors il s'adresse aux chrétiens pour leur demander de ne pas essayer d'empêcher son martyre. Et il leur dit ceci, et la phrase est très très belle, « Laissez-moi être la pâture des bêtes, grâce auxquelles il me sera donné de jouir de Dieu. Je suis, la phrase est très connue, je suis le froment de Dieu, il faut que je sois moulu par les dents des bêtes pour que je sois trouvé pur pain du Christ. » Mmh. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui dit « Ne me replongez pas dans ce monde cruel, laissez-moi partir vers Dieu, laissez-moi devenir le pur pain du Christ, j'atteindrai ainsi la résurrection. »
Ça fait penser quand même à la religion musulmane aussi.
Ça fait penser à tous les mystiques. Oui. Tous les mystiques, on pourrait dire aussi d'un mot un peu plus violent, ça fait penser à tous les fanatiques.
En tout cas, c'est certain, c'est aussi, vous la citez, cette phrase, je l'ai citée déjà tout à l'heure, le sang du chrétien est une semence. C'est Tertullien, qui d'ailleurs est un écrivain qui va se convertir au christianisme. C'est vrai que sans ces martyrs, le christianisme ne serait peut-être pas développé. Surtout, bien entendu, lorsque Constantin reconnaît le christianisme, met un terme aux persécutions en 313. Mais c'est vrai que, au fond, c'est sur le sang des martyrs que s'est édifiée cette religion.
C'est en tout cas l'exemplarité de leur comportement, pour la plupart, parce qu'il y a eu beaucoup d'apostats, mais c'est l'exemplarité de leur comportement. Et c'est surtout le côté, j'allais dire, révolutionnaire de cette affirmation qui pourrait se résumer ainsi: qui que tu sois femme ou que tu sois esclave, deux catégories méprisées d'une certaine manière, femme ou esclave, tu as droit à la dignité d'être un être humain et tu auras droit à la résurrection si tu crois. Et la vie quotidienne est d'une telle brutalité, d'une telle violence, le côtoiement avec la mort est tout à fait de chaque instant, que celui qui peut affirmer « tu seras appelé à être ressuscité », celui-là, il a évidemment une parole forte et qui convainc.
Quand Constantin reconnaît en 313 l'existence, met un terme aux persécutions, c'est par conviction ou c'est par calcul?
Écoutez, je crois d'abord...
Parce que là, il y a beaucoup trop peut-être de chrétiens pour pouvoir les persécuter.
Non, mais exactement, c'est parce que l'extermination a échoué, les chrétiens sont présents dans tout l'Empire, ils forment une sorte de réseau politique, d'une certaine manière, avec des évêques, avec une organisation... Et il est bien évident que l'empereur, qui va s'appuyer dans la compétition qui oppose l'Orient à l'Occident, les candidats à l'Empire, celui qui va s'appuyer sur ces communautés chrétiennes, va avoir un atout considérable. C'est ce que fait Constantin, même s'il n'est baptisé, mais vous voyez son intelligence, pour ne pas perdre l'appui des païens, il ne sera baptisé qu'au moment de sa mort.
Merci Max Gallo, je rappelle que vous êtes l'auteur donc de la suite romanesque publiée aux éditions Fayard, Les Romains, dont le 4e volume s'intitule Marc Aurèle, le martyr des chrétiens, et le 5e et dernier volume, Constantin le Grand, justement, sera disponible en librairie début novembre. À lire également Le christianisme des origines à Constantin, de Simon-Claude Mimouni et Pierre Maraval, au Presse Unester de France, collection Nouvelle Clio. Vous avez pu entendre des extraits des films Covadis, Bénure et Fabiola. Et maintenant, tout de suite, notre jeu, qui pendant toute la semaine, vous le savez, vous permet de gagner un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel, Éphéméris, 1000 ans d'histoire, accompagné d'un CD-ROM. Il vous suffit de répondre à la question du jour. Le 25 octobre 1415, Henri V d'Angleterre terrasse les Français à Azincourt. Après cette victoire, il épouse la fille du roi de France. Quel est le nom de celle-ci? Catherine de Valois, Blanche de Navarre ou Marguerite d'Anjou? Je répète, Catherine de Valois, Blanche de Navarre ou Marguerite d'Anjou. Pour jouer, ne donnez pas la réponse sur notre site, mais appelez le 3230, 34 centimes la minute, et suivez les instructions. Le 3230, vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission, ainsi que sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Edwin Caron, Anne-Laure Cochet, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, et notre réalisatrice Anne Kobilac.